Théophile Gautier, Les Roués Innocents. Plusieurs calèches, crottées jusqu'aux capotes, attelées de chevaux de poste fumants, arrivèrent à de petites distances l'une de l'autre, avec un grand tintamarre de coups de fouet et de grelots, devant la porte d'un des plus célèbres restaurateurs du Palais Royal, vers 6 ou 7 heures du soir, un jour qu'il y avait eu sur les rives de la Bièvre une de ces courses au clocher et entremêlées d'averses où les gentlemen riders auraient autant besoin de parapluies que de cravaches. Il sortit des voitures quelques hommes, dont aucun n'était vieux, et quelques jeunes femmes à qui un goût sévère n'aurait guère pu reprocher autre chose que d'être trop bien mises et d'une élégance trop voyante pour emprunter au style figuré des modistes et des couturières cet hypallage qui leur sert à désigner tout objet ou toute couleur qui attire l'œil. La troupe joyeuse, ou du moins turbulente, s'engouffra dans l'escalier, et les passants, attirés par ce fracas, purent entendre, pendant quelques minutes, des éclats de voix et de rires qui les firent penser, en soupirant, aux voluptés sans nombre qu'allaient savourer ces fortunés mortels. Les postillons, mis en belle humeur par les 5 francs de guide qu'ils venaient de recevoir, s'en retournèrent en faisant le plus triomphant vacarme du monde par manière de remerciement. Une table somptueuse, servie dans le salon rouge du premier étage, attendait les convives, qui se placèrent avec un hasard un peu arrangé, d'après les sympathies, les droits et les aversions de chacun. Les femmes, débarrassées de leurs chapeaux et de leurs mantelets, firent bouffer d'un coup de main le pli de leurs jupes, passèrent le doigt dans l'échancrure de leurs robes, se tassèrent dans leurs corsets par un gracieux mouvement d'épaule et se livrèrent à tous les préparatifs de toilette de personnes qui veulent se mettre à l'aise pour une séance de quelque longueur. 2 ou 3 d'entre elles tirèrent leurs petites mains, non sans peine, de gants plus petits encore, et qui, roulés ensemble, furent coulés dans le cornet des verres à vin de champagne en compagnie d'un bouquet de violettes de Parme ou d'un mouchoir garni de dentelle. D'autres, craignant de compromettre la délicatesse de leur peau, ne se dégantèrent pas et jetèrent sur leur compagne un regard où se peignait un dédain miséricordieux pour une semblable rusticité. Les domestiques, vêtus de noir, cravatés de blanc comme des médecins ou des diplomates, circulaient, ombre légère et discrète, autour de la table. Et se penchant mystérieusement à l'oreille des convives, marmottaient « Monsieur ou madame, selon le sexe, désire-t-il ou désire-t-elle du vin de Jerez, de Madère, des côtelettes d'agneau aux pointes d'asperges ?» du vol au vent de turbo, du faisan truffé. » D'un ton de voix lugubre et d'un air de tristesse profonde, peu en harmonie avec le sens des phrases prononcées, mais destiné à imiter le sérieux du service anglais. Avoir la mine compassée et funèbre de ces desservants du temple de Comus, des bourgeois ingénus les eussent plutôt pris pour des fossoyeurs allant s'enterrer eux-mêmes, que pour les dispensateurs de l'ivresse et de la gaieté. Cependant, grâce aux soins silencieux mais actifs de ces Ganymèdes fantômes, la tranquillité ordinaire du premier service commençait à faire place à l'animation. Une rumeur confuse, composée du bruit des entretiens particuliers, flottait en bourdonnant au-dessus de la table, et déjà, pour se faire entendre, il était nécessaire de grossir la voix. La flamme des bougies chauffait avec force, et les fleurs, groupées dans les corbeilles du surtout, dégageaient des parfums pénétrants. Une voix haute et stridente, celle du baron Rudolph, lança, au travers du tumulte des conversations et du bruit des fourchettes, cette motion qui eut à l'instant beaucoup d'approbateurs. « Pourquoi ne jette-t-on pas par la fenêtre cet affreux système de cuivre doré ?» qui, sous prétexte d'ornement, nous empêche de voir à 1000 et Florence. » En disant ces mots, Rudolph étendit la main vers une des pièces du surtout chargée de fruits confits et de bonbons, comme s'il eût voulu joindre l'action à la parole. Les valets mélancoliques s'avancèrent et en un instant eurent débarrassé le milieu de la table. Désobstrués du buisson de bronze et de fleurs qui les cachait, Amine et Florence apparurent dans tout leur éclat au bravo du reste de l'assemblée comme deux étoiles sortant d'un nuage. Le baron Rudolf avait fait preuve de bon goût en préférant la perspective de ces deux charmantes figures à celle d'assiettes montées et de châteaux de sucreries. On aurait su trouver un contraste plus parfait qu'Amine et que Florence, séparées par un cavalier insignifiant. Elles semblaient créées pour montrer qu'on pouvait arriver à une beauté égale par des moyens complètement différents. Amine était de taille moyenne, mince et coitelée à la fois, un teint d'une exquise fraîcheur naturelle, augmenté encore par les soins d'une coquetterie consommée, faisait ressortir l'extrême délicatesse de ses traits, plus fins que réguliers. Sa bouche, d'une mignonnerie enfantine, contrastante avec les paroles qui en sortaient, ses yeux de velours tout étonnés de leur regard hardi, son petit nez à narines roses dilatées et mobiles, formaient un ensemble où la grâce de l'enfance se mêlait au piquant de la corruption. Dépravée toute jeune par un vieux chargé d'affaires d'une des petites cours du Nord, elle avait la malice d'un diable dans la peau d'un ange. Ainsi faite, Amine passait dans ce monde pour une créature dangereuse, pour une sirène irrésistible. Ceux qui, une fois, subissaient ce charme fatal ne pouvaient venir à bout de le rompre. Dans la longue liste de ses amants, personne ne l'avait quitté, même ceux qu'elle trompait et qui le savaient. Une robe de soie, large raie, qu'on eût pu croire faite de rubans cousus, donnait à la mise d'Amine quelque chose de printanier, de fantasque, qui lui seyait à merveille. Quant à Florence, la première idée qu'elle éveillait dans l'esprit était celle d'une reine perdue, n'ayant pu retrouver le chemin de son palais. Il y avait dans toute sa personne une telle distinction, une noblesse si réelle, qu'on lui avait donné le sobriquet de l'impératrice. On sentait qu'elle n'était pas née dans la Bohême comme les autres, et qu'elle n'avait dû y venir que par une suite de hasards malheureux ou par une suite de ces injustices sociales auxquelles la nature ne peut se soumettre. L'ovale de sa tête était d'une pureté grecque. Les attaches de son col semblaient taillées par Pradier dans le marbre de Paros. Ses mains appelaient le sceptre, et provisoirement on se contentait de jouer avec un couteau de nacre et de vermeil. Sa peau, légèrement olivâtre, avait du rapport avec la pâleur passionnée des Andalous et des Espagnols de la Havane, et ressortait merveilleusement aux bougies. Une robe de velours noir montante, un petit col rabattu de point d'Angleterre, telle était la toilette sévère et simple de Florence, dont tout le luxe consistait en un admirable bracelet de froment meurice, à moitié caché d'ailleurs par la manchette. Bien que sa figure n'exprimât aucun sentiment de dédain pour cette société plus brillante que choisie, il y avait autour d'elle comme une espèce de solitude de respect. Son voisin de droite s'occupait d'une autre femme et son voisin de gauche, voyant Amine engagé dans une conversation assez vive, aimait mieux accepter tous les mets que lui envoyait le découpeur ou l'écuyer tranchant, si ce mot n'est pas trop ambitieux pour ce siècle bourgeois, que de commencer avec Florence un dialogue sans doute difficile à soutenir. Quoique isolée et silencieuse, la jeune femme prenait à ce qui se passait une part plus active qu'on ne l'aurait supposé, à son regard errant et à sa physionomie en apparente indifférente. Amine aussi, malgré son babil inépuisable et les éclats de rire soulevés par ses folies, n'était pas sans une certaine préoccupation. Ses yeux se dirigeaient souvent de l'autre côté de la table avec une expression singulière. Coquetterie, tendresse ou malignité, quel était le sens de cette œillade furtive et rapidement détournée? C'est ce qu'il eût été difficile de préciser. À qui s'adressait-elle? La question n'eût pas été non plus très aisée à résoudre, car l'heureux mortel qui aurait eu le droit de la recevoir ne se trouvait pas de ce côté. Il est vrai qu'avec une femme du caractère d'Amine, ce n'était qu'une raison de plus. Ce manège n'échappait pas à Florence, qui la surveillait sans en avoir l'air, avec cette distraction merveilleusement jouée, comme une au chat, au sauvage et aux femmes. À plusieurs reprises, Amine avait senti son regard comme intercepté au vol et baissait les yeux, se croyant deviner. Mais la physionomie complètement détachée de Florence, qui dégustait à petite cuillère un sorbet au marasquin, car on était arrivé au milieu du repas, l'avait assuré de l'indifférence ou du défaut de perspicacité de l'impératrice abrutie par sa beauté et incapable de s'occuper d'autre chose que de ses perfections. Deux hommes se trouvaient dans la direction du regard d'Amine et pouvaient attirer son attention. L'un était le baron Rudolph, celui qui, par une sorte de galanterie brusque, avait menacé de jeter les corbeilles du surtout par la fenêtre. L'autre était Henri d'Alberg, un jeune homme lancé depuis peu, qui montrait d'assez belles dispositions à manger le capital de 25 000 francs de rente qu'il possédait. Le baron avait près de 40 ans, quoi qu'il en parût, 30 à peine. Ses cheveux noirs, rasés de près pour prévenir un commencement de calvitie, sa petite moustache fine et pincée par le bout au moyen d'un cosmétique, son teint d'une blancheur mate, l'expression à la fois efféminée et cruelle de sa physionomie, lui donnait une ressemblance vague avec ses portraits de Janet ou de Porbus, représentant des millions de la cour d'Henri III. Cette ressemblance physique aurait pu se continuer au moral. D'Alberg avait tout au plus 22 ans. Sa figure ouverte et douce, son regard bienveillant, sa bouche souriante, contrastait étrangement avec le ton dégagé et les allures hardies qu'il affectait. Les teintes roses de l'adolescence n'avaient pas encore entièrement quitté ses joues un peu pâlies par quelques excès récents et la fréquentation des coulisses de l'opéra. À la satisfaction évidente avec laquelle il passait un petit peigne d'écaille dans sa barbe d'un châtain doré, on voyait que c'était pour lui une nouveauté agréable. « Oh, quel des deux en veut-elle ?» se dit Florence, tout en répondant à son voisin, qui, après de longues réflexions, s'était enfin décidé à rompre le silence pour émettre cette importante observation météorologique. « Quel temps affreux il a fait aujourd'hui, madame !»« Alors à Rudolph, à Henri ?» Rudolph a été dans les bonnes grâces d'Amine autrefois, et Amine, comme elle le dit elle-même, n'a pas le défaut de remâcher. Elle aurait fort à faire si elle s'abandonnait aux tendres réminiscences. Alors, c'est à Henri que s'adresse cette œillade assassine. Demeurait est donc ruiné. Et Florence jeta un coup d'œil sur le mortel chargé de subvenir à la liste civile d'Amine. Il trônait au haut de la table avec l'indolente sécurité d'un homme qui a beaucoup d'action du Nord. Ce serait donc caprice, sinon de cœur, du moins de tête. Observons, continua Florence dans son monologue. Et combien elle a dû se gâter de chapeaux, d'écharpes et de robes, ajouta le voisin d'un ton lamentable, en songeant qu'on abuserait sans doute de ce prétexte pour lui faire renouveler une toilette entièrement intacte ou tout au plus immaculée d'une goutte de pluie. D'Alberg s'est-il aperçu qu'il est la cible des flèches d'Amine? A-t-il senti un des regards que lui décoche? Se demanda Florence. Les hommes sont étranges. Oh, les deux seuls qui n'y verront rien, ce seront lui et de Marcy. Ce n'est pas que D'Alberg fût un sot, mais il était engagé avec Rudolph dans une controverse assez vive. Il avait perdu 25 louis en pariant pour un cheval au steeplechase. La somme n'était pas considérable, mais son amour-propre souffrait de l'erreur de son jugement. il soutenait au baron, qui avait gagné, que toute la faute était à l'écuyer. « Mon cher, lui répondait Rudolphe, on pouvait s'y tromper. Votre favori, bien qu'au fond il ne fût qu'une rosse, avait des performances remarquables. Vous avez jugé en artiste et non en jockey. Mais nous vous formerons. Je vous présenterai à Edwards et à Robinson. Je vous ferai connaître Somerset, le célèbre entraîneur. » L'espoir d'être admis dans l'intimité de si grands personnages rendit sa bonne humeur à Dalberg, qui se mit à parcourir la gamme de verres mousseline placés devant lui et que des échansons sinistres avaient impassiblement rempli de Barsac, de Gruau la Rose, de Romanet, de Constance et autres crus renommés. Amine sourit en voyant Dalberg s'abandonner franchement à la gaieté du repas et dit à voix basse à l'homme placé auprès d'elle « Il marche bien, l'enfant. S'il continue, il va se griser, comme un garde national à la table du roi, » répondit l'homme avec un geste de pitié. Rudolphe, lui, ne buvait qu'un peu de vin, de champagne, frappé, mêlé à de l'eau de sels, sous prétexte d'un commencement gastrite causé par une soi-disant extrait commis dans les enfers de Londres à un récent voyage en Angleterre. Cette différence fut remarquée par Florence, et un imperceptible mouvement d'épaule trahit sa contrariété. Les minauderies d'Amine avaient enfin attiré l'attention d'Henri, qui s'était penché vers Rudolphe pour lui dire « Il me semble, sans présomption aucune, qu'Amine me regarde d'un air furieusement tendre. « Pardieu, vous êtes un gaillard dubitatif, rien n'est plus clair. Mais vous êtes trop némorin pour profiter de la bonne volonté de cette Estelle, » répondit le baron Rudolphe à Henri, qui se disculpa de son mieux de toute tendance pastorale, et affirma d'un air plein de candeur que jamais la terre n'avait porté un plus grand scélérat, et qu'auprès de lui, Lovelace et Don Juan n'étaient que de gens timorés. « Tant mieux, Carlo, vous avez soupçonné d'amour honnête et pur, ce qui est extrêmement mal porté et du plus mauvais genre. » À ce propos, Henri rougit comme une jeune fille prise en faute et cacha son embarras sous un toast en l'honneur d'Amine et de Florence, qui le lui rendirent en portant leur verre à la hauteur de leurs yeux. Le dîner tirait à sa fin et devenait bruyant. Tout le monde parlait à la fois, et chacun se racontait son histoire à soi-même, faute d'auditoire. Une demi-douzaine de ces confidents de tragédie, qui savent si bien écouter, n'eût pas été de trop dans cette société de seigneurs et de princesses. Ne pouvant se faire entendre, malgré son faux sec riard, Amine, bête malfaisante de sa nature, gâchait le plus qu'elle pouvait de fruits d'orange glacée et de tranches d'ananas. Elle avait soin de faire entamer tous les plats intacts, d'effondrer à grands coups de cuillère toutes les architectures de sucre filées encore restées debout, et cela, disait-elle, dans l'idée philanthropique de les empêcher d'être servis une seconde fois tout couvert de poussière et de moisissure à un repas de noces de gens vertueux. Elle aurait bien aussi cassé quelques cristaux, quelques glaces et quelques porcelaines, si Rudolf ne lui eût affirmé que ce n'était plus de mode depuis l'Empire et la Restauration. On passa au salon. Florence, qui paraissait voir avec déplaisir Amine se rapprocher d'Henri, trouva moyen de se faire offrir le bras par ce dernier. Amine saisit vivement le bras de Rudolphe et lui dit très bas « Eh bien, que dites-vous de mes œillades ?»« Parfaite exécution, » répondit Rudolphe sur le même ton. « Le demi-tour de prunelle et surtout l'éclair lumide qui le suit sont irrésistibles. Une Andalouse, une Bayadère n'eussent pas mieux fait. Oh, tu as dans le blanc de l'œil une certaine lueur nacrée qui vaut un million. » « Et qui me l'a rapporté ?» répliqua le joli monstre en riant de manière à montrer jusqu'au fond de sa bouche ses petites dents grosses comme des grains de riz. Il s'agit de rendre Henri d'Albert amoureux fou. Je le veux bien, il est gentil, son air d'innocence me plaît. Par amour du contrat, sans doute. Il faut en doute, pour des motifs à moi connus, le compromettre le plus possible. Te montrer avec lui en loge découverte, à l'opéra, aux avant-scènes des petits théâtres, en calèche aux Champs-Élysées, au bois et aux courses, et cela avec ce luxe tapageur et ce fracas de toilette qui te fait regarder d'un bout du Champ de Mars à l'autre et qui occupe de toi seul une salle tout entière. Mais si de Marcy se fâche, il n'est pas lucide sans doute, mais vous demandez des choses à crever les yeux. Mais tu la verras promener, il n'a d'autre mérite que d'être grossièrement riche. Mais le jeune homme possède 500 000 francs clairs et mangeables. C'est toujours cela. Oui, répondit Amine, mais il est beau. C'est ce qui me décide. Et d'ailleurs, si tu perds ton banquier, je te donnerai un prince indien avec une multitude de lacs de roupies, de masses de cachemire et des diamants arrumés à la pelle. Pendant ce court dialogue, Henri de Florence et Florence avaient traversé le salon et se tenaient debout dans l'embrasure de la croisée entr'ouverte. L'air qui vient du palais royal n'a rien d'alpestre ni de balsamique, mais il peut paraître agréable après une séance de 3 heures dans une salle échauffée par les feux des bougies, la vapeur des mets et la laine de 20 personnes. Le ciel s'était nettoyé, un vague rayon éclairait les allées de tilleuls et piquait de paillettes d'argent l'eau tremblante du bassin. La figure de Florence, atteinte d'un côté par la lueur rose des lustres et de l'autre par le reflet bleu de la lune, était d'une beauté singulière et d'une rare noblesse. Sans le vouloir, d'Alberg, qui affectait des allures cavalières, avait repris les façons respectueuses qu'il eût eues auprès d'une femme de la meilleure compagnie. Il écoutait, avec déférence, quelques observations spirituelles et pleines de bon sens, faites par Florence sur les événements de la journée, et avait complètement oublié Amine. Celle-ci s'en aperçut, et peu disposée à perdre du terrain, elle trouva un moyen très simple de séparer de la sage Florence le confiant ami de Rodolphe. Le café pris et les liqueurs bu, l'on avait voulu danser. Il y a toujours aux frères provençaux 2 ou 3 pianistes en permanence qu'on évoque quand il est besoin, et qui, à demi endormis, se mettent à jouer avec des physionomies de somnambules, des contredanses, des galops, des valses, des polkas. Ce sont pour la plupart de pauvres jeunes artistes rêvant de symphonie à la Beethoven, d'opéra à la Meyerbeer et qui acceptent ce triste métier pour vivre. Leur nuit se passe à voir de belles jeunes femmes étincelantes de parure se livrer à la joie et au plaisir. Ils sont là, spectateurs impassibles de l'orgie, comme l'esclave cubiculaire des fresques d'Herculanum. Et le jour, penchés sur leur papier de musique couturé de ratures, ils pensent à ces anges et à ces démons, qu'ils connaissent tous, et dont aucun ne les connaît. Amine s'avança vers Henri et, faisant une révérence moqueuse à Florence, dont la figure se rembrunit, elle lui dit de sa petite voix flûtée « Madame, je vous demande pardon de vous enlever, monsieur, mais je n'ai pas de danseur. »« Allons, venez, monsieur Henri, vous regarderez la lune une autre fois, » fit-elle en minaudant. « N'allez pas croire au moins que j'ai pour vous une passion désordonnée parce que je vous ai invité moi-même. Une femme qui a envie de polquer ne respecte aucune convenance. Ainsi, c'est bien entendu, hein, vous n'êtes pour moi autre chose que 2 pieds vernis et 1 main grantée de blanc. » En débitant d'un air ton délibéré ces phrases dédaigneuses, Amine se penchait sur le bras d'Henri avec une nonchalance voluptueuse qui démentait le sens de ses paroles. Henri ne put se défendre d'un certain trouble en sentant sur sa manche la tiédeur vivace d'un corsage élastique. on joua une valse. Amine, dont les petits pieds effleuraient à peine le parquet, se suspendait à l'épaule de Dalberg, et bien qu'elle ne lui posât pas plus qu'une plume de colibri, elle semblait presque portée par lui. Sa jolie tête renversée en arrière, et dont les anglaises éparpillées flottaient dans le tourbillon, prenait de ses yeux noyés et de sa bouche à demi ouverte par une respiration précipitée une expression de langueur voluptueuse à troubler l'homme le plus froid. Heureusement, de Marcy, qui était marié et comme tel forcé de rentrer à des heures probables, avait demandé à sa voiture depuis longtemps. Florence, qui restait debout près du balcon et presque enveloppée dans les plis du rideau, observait cette scène sans être vue, se dit, tant l'imitation était parfaite, « Est-ce qu'elle serait amoureuse tout de bon ?» Fatigué de danser, Henri alla s'asseoir en face de Rudolf à une table de jeu, et la tête alourdie par les libations, ému par les regards fascinateurs d'Amine, il perdit une cinquantaine de louis qui rejoignirent dans la poche du baron les 25 du pari. Cette journée de plaisir coûtait 2000 francs à Dalberg, juste ce qu'elle rapportait à Rudolf. Le monsieur observateur de la température, qui par une foule de manœuvres savantes s'était rapproché de Florence, lui confia mystérieusement cette troisième proposition, déduite des deux premières avec une logique supérieure. Ne vaudrait-il pas mieux remettre les steeple-chaises et généralement toutes les solennités en plein air lorsque le baromètre est à la pluie ou même aux variables? La nuit s'avançait, l'aiguille allait toucher 3 heures. Dalberg, moins aguerri aux veilles que le reste des convives, la plupart viveurs émérites, s'était endormi dans l'angle d'une causeuse, comme un enfant qu'on a oublié de coucher. Bon, le voilà qui dort plus à lui seul qu'un comité de lecture, dit Amine en passant devant lui. S'il allait nous dire en rêvant le nom de celle qu'il aime, style de ballet, ce serait drôle. Tout à coup, elle se pencha vers le dormeur, comme Diane vers Endymion, et par l'interstice de la chemise de Henri, que laissait bâiller un bouton d'opale sorti de la boutonnière, elle avait vu briller un petit médaillon au bout d'un ruban. L'attirer à elle et couper de ses dents de rat le nœud qui le retenait avait été pour Amine l'affaire d'un instant. Dalberg avait tressailli et porté vaguement la main à sa poitrine comme pour défendre son bien, mais ne s'était pas réveillé. « Ah, pour le coup, nous allons rire à défaut du nom. Nous connaîtrons au moins la figure de la bien-aimée de M. Dalberg. » Et la malicieuse créature s'était enfuie au bout du salon et réfugiée par un petit groupe de ses compagnons, de peur que le médaillon ne fût brusquement arraché des mains. Elle en fit jouer le ressort et mit en évidence une miniature grande comme l'ongle et représentant une tête de jeune fille. Amine fit voir le portrait à ses amis. Aucune ne put lui mettre un nom. « Ce doit être quelqu'un d'honnête, pas une de nous ne la connaît, » dit-elle avec cette insolence joyeuse qui la caractérisait. « Mais elle est blonde, à ce qu'il paraît, des yeux bleus, l'air distingué, de la beauté, oh mais tout cela fade et glacial, ou de ses perfections à faire mourir d'ennui. » Quand ce fut le tour de Rudolf de regarder, un éclair de joie illumina sa pâle figure. Ses traits, qui n'étaient pour les autres qu'une vaine image, il les avait signés au premier coup d'œil. « Ne rends pas ce médaillon !» dit-il à la jeune folle en voyant s'approcher Dalberg. Florence aussi ne put retenir un léger tressaillement à l'aspect du médaillon. Peut-être sa nature plus délicate que celle des autres se révoltait, telle à cette profanation d'un si pur sentiment. « Bonjour, berger !» dit Amine à Dalberg qui s'avançait. Avez-vous fait, pendant votre sommeil, des rêves couleur de rose, et vu des moutons poudrés à blanc dans des pâturages d'épinards? Avez-vous soupiré sur vos pipeaux, l'éloge de votre belle, comme il convient à un parfait céladon? Que signifient ces folies? Répondit Dalberg, qui s'était pas encore aperçu de la perte du portrait. Et moi, qui écoutais avec un frisson si bénévole les terribles histoires que monsieur racontait tantôt au steeplechase, et qui m'attendait à tout moment à voir sortir de terre une flamme de térébenthine pour engloutir un si grand scélérat. Le lion est un agneau. Le don Juan porte sur son cœur les portraits de pensionnaires avec des cheveux, car il y a des cheveux, pour que rien ne manque à la bourgeoisie sentimentale de la chose. De la soupe grasse, du bœuf au chou, une femme légitime et 7 enfants. Mais voilà ce qu'il vous faut pour être heureux, profond séducteur. Les autres femmes se mirent à ricaner de leur méchant rire. Dalberg s'écria, « Oh, mais rendez-moi ce médaillon, c'est le portrait de ma mère. »« Allons donc, » repartit Amine, « il y a une date. » En 1845, madame votre mère devait avoir plus de 16 ans.
Je me trompais, reprit Dalberg en balbutiant. Je voulais dire ma sœur.
Vous pataugez horriblement, mon cher. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de sœur. Un de vos principaux agréments est d'être fils unique.
Bon, trêve de plaisanterie, rendez-moi ce médaillon.
Ah non pas, je le garde pour mon musée. Je serais charmé d'avoir la vertu chez moi, ne fût-ce qu'en effigie. »
Dalberg, furieux, s'avança pour reprendre le médaillon de force. Mais, prévoyant l'attaque, Amine l'avait fait passer rapidement de sa main droite dans sa main gauche, et pendant que Dalberg s'efforçait d'écarter les doigts effilés de la jeune femme, elle avait prestement coulé le portrait dans son corset.
« C'est pas la peine de jouer ici la scène de Lord Ruthven et du duc de Guise et de me faire des bleus au bras, » dit Amine en ouvrant sa main vide. Par un brusque mouvement de retraite, elle gagna la porte, jeta sur ses épaules le manteau que lui tendait un domestique et descendit l'escalier avec la légèreté d'un oiseau. Dalberg se précipita sur ses pas, mais il n'arriva que pour voir étinceler le pavé sous les fers des chevaux et la voiture tourner l'angle de la rue. La place qui s'étend devant la vieille église de Saint-Germain-des-Prés était complètement déserte. Un reste de brouillard qui se résolvait en pluie fine avait chassé les rares passants qui traversent cet endroit presque solitaire. Les yeux des maisons commençaient à peine à s'ouvrir et, sans une citadine au store baissé qui stationnait à quelque distance du portail, on eût pu se croire dans une ville morte. Une femme, emmaillotée d'une pelisse de couleur sombre qui ne permettait pas de distinguer ses formes, coiffée d'un chapeau noir garni d'un voile très épais derrière lequel il était impossible de deviner ses traits, sortit de l'église, après avoir légèrement effleuré du bout de son gant le goupillon que lui tendait le donneur d'eau bénite. Mais, soit qu'il lui ait fallu, pour se signer et relever son voile, soit qu'elle ne fût pas d'une piété bien fervente, elle secoua la gouttelette suspendue à son doigt et se dirigea vers la citadine dont le cocher abaissa le marchepied avec plus d'adresse et de vivacité que n'en met habituellement ses honnêtes automédons. S'il se fût trouvé là un observateur, il eut remarqué un pied à cambrure aristocratique, des chevilles mignonnes moulées dans un brodequin irréprochable. Et l'idée de quelque entrevue mystérieuse, de quelque rendez-vous à l'espagnol, lui fut immédiatement venue à l'esprit, corroborée par la mise de l'inconnu qui pouvait passer pour un déguisement. Car, bien qu'elle n'ait pas la ressource du loup de velours, de la mantille et de la bahute, les femmes de Paris, qui ne veulent pas être reconnues, ont inventé à l'usage de la ville un domino aussi impénétrable que celui de l'opéra.
Eh bien, malgré sa finesse, cet observateur se serait trompé. Il eût pu faire le tour des nefs humides, le long desquelles moisissent quelques tableaux dans les goûts strapassés du dernier siècle, pénétrer jusque dans la chapelle de la Vierge, déshonorée d'affreuses grisailles, fouiller le cœur assombri par les échafaudages placés pour les peintures de Flandrin, regarder derrière les colonnes corinthiennes de bois sculptées qui soutiennent le buffet de l'orgue et jettent des ombres si propices au mystère, il n'eût découvert aucun prétexte pour supposer une intrigue de roman. Une ou deux vieilles femmes marmottaient des prières, chacune devant son autel de prédilection, et un vieillard, coiffé d'un bonnet de soie noire, balayait la nef et rangeait les chaises dont les pieds tracassés faisaient un bruit répété longuement par la sonorité vide de l'église. L'esprit le plus sceptique n'eût pu soupçonner ce bonhomme d'être un prince déguisé. C'était bien un balayeur d'une authenticité incontestable, et d'ailleurs connu dans le quartier depuis 40 ans. L'objection qu'il existe une autre porte, et même d'un assez joli style Renaissance, qui donne sur une autre rue, n'aurait eu aucune valeur, car depuis plus d'une heure, personne n'avait passé par là. Malgré toute l'envie possible de croire qu'on tenait le bout du fil d'un de ces imbroglios que la curiosité aime tant à démêler, il eut fallu se résigner à ce fait tout simple et peu romanesque que la dame inconnue n'avait d'autre but que de faire sa prière en dépit du manteau sac, du voile et de la citadine au star baissé. En ce siècle d'incrédulité, tout le monde n'a pas le courage d'être pieux ouvertement, et beaucoup de gens se masquent pour aller à l'église. Au moment où la citadine se mettait en mouvement, parut au coin de la rue de l'Abbaye une jeune fille accompagnée d'une gouvernante âgée et d'une physionomie respectable, qui tenait ouvert au-dessus de la tête de son élève un parapluie de forme patriarcale. La mise de la jeune fille, quoique d'une simplicité presque puritaine, faisait voir par la finesse des étoffes et le soin des détails qu'elle appartenait aux classes aisées de la société. Sa figure fraîche et colorée annonçait une vie calme comme le quartier. On ne lisait pas autour de ses yeux bleus la fatigue des bals, des spectacles et des soirées écrites en pénombre violette. Ses cheveux blonds tournés en boule et arrêtés au coin de ses tempes, car il était trop matin pour qu'elle fût déjà coiffée, permettait d'apprécier les lignes pures de ses joues que veloutait le duvet de la virginité. Son air modeste et recueilli, ses yeux baissés et sans affectation, indiquaient une jeune personne pieuse qui se rend à l'église pour commencer saintement une journée innocente. Le petit fiacre à store baissé passa si près de la jeune fille et de sa gouvernante qu'elles furent forcées de se ranger contre le mur. Une légère rougeur, probablement due à l'émotion, car la roue l'avait presque froissée, colora le front blanc de Calixte, et elle continua sa route vers Saint-Germain-des-Prés d'un pas plus vif. Calixte et sa gouvernante entrèrent dans l'église et remontèrent la nef jusqu'à ce qu'elles fussent arrivées à la chaire. C'était là que se trouvait la chaise de Calixte, dont les initiales étaient marquées en clous de cuivre sur le dossier. Un petit coffre adapté en dessous contenait le paroissien, le colloge et les livres de piété à l'usage de la jeune fille. Elle s'agenouilla après avoir tiré un des livres de la boîte et se mit à prier en apparence avec ferveur. Cependant, malgré toute la bonne opinion que doit inspirer une jeune fille qui se rend de si bonne heure à l'église, accompagnée de la plus respectable des gouvernantes, il faut dire qu'un papier plié, ayant toutes les apparences d'un billet doux, se trouvait intercalé entre les feuilles du Saint-Civre. Calixte ne sembla pas le moins du monde indigné de cette découverte et glissa, avec dextérité, le billet entre son gant et sa main. Autre remarque bien faite pour surprendre, si quelqu'un des convives qui avait si joyeusement employé la nuit aux frères provençaux eût pu, par un hasard invraisemblable, se trouver à cette heure matinale dans cette vieille église, au fond du faubourg Saint-Germain, il eût été frappé de l'étrange ressemblance des traits de Calixte avec ceux du médaillon volé par Amine à Henri d'Alberg. C'étaient bien les mêmes cheveux blonds, le même regard bleu, le même sourire doucement épanoui. Mais comment le portrait d'une jeune fille si dévote reposait-il sur le cœur d'un jeune écervelé, où l'avait été chercher la main impure d'une courtisane? La messe achevée, Calixte retourna chez elle d'un pas dont elle avait peine à modérer l'impatience et que pouvait à peine suivre la vieille gouvernante. Arrivée à la maison, elle monta droite à sa chambre. Il régnait dans ce nid de colombes un ordre parfait, une propreté extrême. L'ameublement, quoique confortable, était d'une simplicité rigoureuse. Une étoffe bleue unie tendait la muraille. Un tapis blanc parsemé de bouquets couvrait le plancher. Un lit de pensionnaire se cachait au fond, sous ses rideaux blancs. À des cordons de soie étaient suspendues quelques gravures d'après Raphaël. Quelques aquarelles représentant des fleurs, cadeaux et souvenirs d'amis de pension. L'une d'elles, ayant pour sujet un groupe de coquelicots et de bluets mêlés à des épis, portait cette inscription « Faite en promenade d'après nature et offert à mon ami Calixte ». Mais la signature à moitié cachée par le cadre ne laissait voir que le haut de deux lettres débordant de la ligne et qui semblent être un F et un L. Était-ce une maladresse de l'encadreur ou une précaution pour dissimuler un nom qu'il ne convenait pas de faire connaître? Oh, c'est ce qu'il serait difficile de résoudre. Sur une petite étagère de palissandre, une douzaine de volumes montraient des dos à nervures et des titres glorieux, tels que « Les méditations »,« Les feuilles d'automne »,« Paul et Virginie », Le pèlerinage de Childe Harold et témoignait d'un goût pur et d'une éducation soignée. Un magnifique piano des rares, seul luxe de la chambre, et sur le pupitre duquel s'ouvrait un cahier de musique, la sonate 15e de Beethoven, annonçait aussi chez Calix des connaissances musicales assez avancées, en même temps qu'un métier à broder tendu d'un fond de meubles presque terminé, attestait que ses études d'un ordre plus élevé ne lui faisaient pas négliger les humbles travaux de l'aiguille. Calixte, après avoir donné à sa gouvernante un ordre qui devait la tenir éloignée pour quelque temps, ferma sa porte, retira le billet de son gant et se mit à le lire. La lettre, si mystérieusement parvenue à son adresse, ne produisit pas l'effet qui résulte ordinairement de pareilles correspondances. Un nuage parut ombrer le front ordinairement si serein de Calixte. Ses beaux yeux se troublèrent, un mouvement précipité souleva son sein et le papier trembla dans sa main émue, qu'elle laissa retomber sur son genou dans une attitude découragée. Elle resta ainsi quelques minutes, puis relevant sa tête qu'elle éclairait en plein la lumière, elle sembla secouer une idée importune, et la tranquillité reparut sur ses traits. La conviction ébranlée un moment rentra dans son âme, et elle se leva du fauteuil où elle s'était jetée, en disant, avec un accent de foi profonde, « Je vaincrai le mauvais ange !» Puis elle alluma une bougie et brûla à sa flamme la lettre dont elle fit disparaître les vestiges dans la cheminée. Quand la gouvernante rentra, elle trouva Calixte assise à son métier et comptant les points d'une fleur tracée au carreau qu'elle voulait copier. Elle lui apportait ce qu'elle avait demandé. « C'est bien, ma bonne, » dit Calixte d'un ton doux et bienveillant. « Comment trouvez-vous ce dessin ?»« Parfait !» répondit la vieille femme, sans se douter que Calixte venait de l'envoyer chercher assez loin un écheveau de laine dont elle n'avait que faire, et qu'on eut fort surprise en lui apprenant que la pupille qu'elle ne quittait pas d'un instant avait reçu, lu et brûlé un billet éminemment suspect. Quelques mots sur Calixte et son origine ne seraient pas déplacés ici. Calixte habitait Paris depuis 6 mois seulement avec M. Després, son père, ancien notaire d'une ville de province qu'il est inutile de désigner et qu'il s'étonnait d'avoir quittée. Cette ville était la ville natale d'Henri d'Alberg, légèrement cousin de Calixte Després. Là, ces deux enfants s'étaient connus et liés l'un à l'autre par ce fil imperceptible de l'habitude. Ils avaient vécu ensemble dans la charmante familiarité de l'innocence. Leur parenté, qu'ils s'exagéraient, expliquait la fréquence de leurs rapports. On les avait vus si petits l'un et l'autre que personne ne songeait qu'ils étaient devenus grands. M. Després, parce qu'il avait autrefois fait danser Henri sur son genou, le regardait comme un enfant sans conséquence. Quant à sa fille, elle lui paraissait à peine sevrée, et il l'appelait toujours « petite » comme le jour où elle était revenue de nourrice. Aberration commune aux gens âgés, qui, parce qu'ils restent stationnaires, ne s'aperçoivent pas que tout pousse autour d'eux, et demeurent tout ébahis qu'un jour ces bambins fassent des dettes, se battent en duel, aient des maîtresses, et demandent à se marier. Henri était pourtant un beau jeune homme, ayant la tête de plus que M. Després, et Calixte, laissé plus libre, malgré une éducation austère, qu'elle ne l'eût été si sa mère eût vécu, avait déjà une grâce sérieuse, des idées plus réfléchies que la plupart des jeunes filles. Bien que la maison de M. Després ne fût guère amusante, et qu'il n'y vînt que des quinquagénaires pour faire le whist et le boston, Henri la trouvait la plus divertissante du monde et y passait presque toutes ses soirées. Le grand salon à boiseries grises et dont les angles restaient toujours en dehors de l'auréole des bougies lui paraissait gai, lumineux et vivant. Son avis sans doute était tout autre si en entrant il n'avait pas vu Calixte déjà assise au piano et déchiffrant quelques morceaux difficiles qui réclamaient son avis et son intervention. D'autres fois, c'était une lecture de quelques poètes étrangers qu'il fallait traduire ensemble, et souvent leurs têtes, penchées vers la même page, s'effleuraient par le front ou la joue. Une boucle blonde se mêlait aux cheveux bruns d'Henri, mais dans le feu de l'explication, on n'y prenait pas garde. La surveillance un peu assoupie, il est vrai, de la vieille gouvernante, légitimait d'ailleurs ces entrevues d'une pureté parfaite et auxquelles le rigorisme le plus scrupuleux n'eût rien retrouvé à redire. Lorsque d'Alberg fut obligé de partir pour Paris où l'appelait le perfectionnement de ses études et le soin de son avenir, Calixte éprouva un grand serrement de cœur. La scène des adieux fut triste. D'Alberg demanda et obtint une miniature que Calixte avait faite d'après elle-même, au miroir, et qu'elle décidait à une de ses amies de pension, car elle peignait avec beaucoup de goût. Ce fut alors seulement que ces deux enfants comprirent combien ils s'aimaient. Ils ne se l'étaient jamais dit, mais leurs âmes s'étaient fiancées silencieusement et avaient échangé l'anneau d'or dans un baiser muet. Dans le cœur de Calixte, un poinçon invisible avait buriné cette phrase « Oh, je n'aurai jamais d'autre époux que Henri d'Alberg. » Au bout de quelques mois, M. Després, qui s'était jusque-là parfaitement contenté des ressources que la ville de C offrait à son loisir, prétendit qu'il avait assez lu Horace, que le whist était un jeu monotone et que le poisson devenait de plus en plus rare dans la rivière locale. Il sentit tout à coup le besoin de revoir des parents oubliés depuis 20 ans et qui devaient lui être fort utiles pour de certaines opérations qu'il méditait. Bref, il annonça qu'il partait pour Paris dans l'intention d'y passer une partie de l'année. Calixte, avec ce machiavélisme familier aux plus honnêtes natures féminines, avait inspiré à son père, qui n'en avait nullement envie, l'idée de ce voyage. Et M. Després, sans trop savoir pourquoi, s'était trouvé installé rue de l'Abbaye dans un appartement retenu d'avance par un ami. D'Alberg vint naturellement voir le père de Calixte et les choses se passèrent à peu près au faubourg Saint-Germain comme à C, et dans le salon rouge comme dans le salon gris. Seulement M. Després, reprenant goût à la vie parisienne, vendit sa maison de C et s'établit d'une manière définitive dans cette rue dont la tranquillité lui plaisait et lui permettait de jouir de ce qu'il appelait en riant le sommeil de province. La tolérance de M. Després s'expliquait tout naturellement. Ce qui pouvait arriver de pis, c'est que les jeunes gens devinssent très amoureux l'un de l'autre, et comme Dalberg était d'une famille honorable et possédait une assez jolie fortune, l'ex-notaire, sûr de la vertu de sa fille et de la loyauté du jeune homme, ne voyait à cela aucun inconvénient. La perspective d'avoir Dalberg pour gendre lui souriait comme une excellente affaire. Maintenant, si l'on s'étonne de voir Henri souper avec des beautés équivoques, jouer et se griser, ayant le cœur plein de beaux sentiments, l'on voudra bien se souvenir que l'âme humaine est un composé de contrastes et que les héros, tout d'une pièce, ne se rencontrent guère que dans les tragédies. Le monde est plein de grandissons qui se conduisent en Lovelace et font des atrocités avec une fraîcheur d'idylle. L'entraînement dans l'entourage, la vanité naturelle à la jeunesse, la séduction d'un type célébré par les grands poètes fausse bien des natures. La candeur et la naïveté sont des qualités dont on rougit plus que de vices. Et si, au dire de ceux qui l'habitent, le bagne n'est peut-être peuplé que d'innocents, en revanche, tous les jeunes gens qu'on interroge prétendent être d'affreux bandits. Chacun a la fatuité de ce qui lui manque. Ainsi, Dalberg, fait pour savourer les douceurs de la vie intime, capable de comprendre les poésies du foyer et de la famille, menait une vie diamétralement opposée. Cela tenait à ce qu'en arrivant à Paris, il avait lié connaissance avec Rudolphe, qu'il avait lancé dans ce monde douteux où, sous l'apparence du plaisir, se cachent des préoccupations sérieuses et des profonds calculs. On ne passe pas ainsi de la vie patriarcale de province à cette existence fiévreuse, surexcitée, orgiaque, où l'or, le vin et les femmes combinent leur triple ivresse, sans en éprouver une commotion morale. Les rires étincelants, les œillades lascives, les propos hardis, les toilettes provocantes, et pourquoi ne pas le dire, les épaules satinées, les bras nus insolemment livrés au regard, avait troublé les sens neufs de Dalberg. Malheureusement pour la vertu, le vice a souvent la peau fine, la dent blanche et le teint pur. En outre, la crainte d'être taxé par Rudolphe de naïveté départementale poussait Henri à toutes sortes de forfanteries de viveur. Il soupait sans fin, par simple imitation dérouée de la régence, jouait et perdait de peur d'avoir l'air bourgeoisement économe, et se croyait obligé de faire la cour à des femmes qui ne lui pesaient pas du tout, mais qui étaient vantées par son ami comme très à la mode. Plus de gens qu'on ne le pense, et cela parmi les plus forts et les plus spirituels, vivent pour obtenir l'approbation d'individus quelquefois sans mérite. Dans tout ce qu'il faisait, Henri avait l'inquiétude de Rodolphe. Un sourire ou un froncement de sourcil du baron lui faisait complètement changer d'avis. Un mouvement d'épaule un peu méprisant de Rudolphe suffisait pour dégoûter Henri d'un cheval, d'une femme ou d'une voiture. S'il donnait à souper, Henri n'était à son aise que lorsque Rudolphe avait daigné dire « c'est mangeable » et ne s'amusait pas à mettre au-dessus des mets les plus exquis quelque ignoble ragoût de portier. Rudolphe avait une manière froide d'exciter Dalberg aux plus grandes folies. Il lui donnait des conseils raisonnables et l'engageait à ne pas forcer sa nature débonnaire et pacifique. Ainsi poussé, Henri avait sauté une haie de 6 pieds de haut, embrassé la reine sur son balcon et mis toute sa fortune sur une carte. Et à ce train, Henri avait déjà mangé 50 000 francs. Mais ce n'était pas cela qui l'occupait en ce moment. Ce médaillon, que depuis plus d'un mois il avait l'habitude de sentir sur sa poitrine et qu'il regardait comme une espèce de talisman, était aux mains d'Amine, qui sans doute n'avait voulu lui faire qu'une niche en l'emportant, car de quelle utilité pouvait lui être cette miniature? Elle n'était pas entourée de brillants, et ce morceau d'ivoire peint ne devait avoir aucune valeur pour la maîtresse de Marcy. Pourtant, Dalberg éprouvait un vif chagrin de ne plus posséder ce cher portrait auquel il attachait une idée superstitieuse. Il se trouvait, en quelque sorte, désarmé. Aussi attendit-il avec une impatience extrême qu'il fût l'heure de se présenter chez Amine. Mais Amine avait eu la fantaisie d'aller déjeuner à Saint-Germain, au pavillon Henri IV, prétendant que rien n'est plus malsain que de rentrer chez soi après souper, et n'était pas encore revenu. Mais, sans doute, avait ajouté la femme de chambre, « Monsieur pourra trouver madame ce soir à l'opéra. » Henri courut à l'opéra, mais il eut beau braquer sa lorgnette sur toutes les loges, il ne put découvrir Amine et sortit fort dépité. L'heure à laquelle il pouvait convenablement se présenter chez M. Després était passée, ce qui n'empêcha point de prendre le chemin de la rue de l'Abbaye pour avoir au moins le plaisir de regarder la maison où vivait son ami. Une faible lueur tremblotait à travers les rideaux de la chambre de Calixte. Henri, embossé dans son manteau, fixa longtemps ses yeux humides sur ce point brillant, étoile d'amour qui scintillait dans l'obscurité générale, car les autres fenêtres s'étaient successivement éteintes. Les scènes du passé revinrent en foule à sa mémoire. Il se souvint de mille charmes en détail où perçait la plus pure tendresse, d'une fleur donnée et conservée comme une relique, d'un refrain de romance dont l'application était visible, d'une main abandonnée plus longtemps qu'il n'était nécessaire à une descente de bateau ou de voiture. Et il se sentit le cœur inondé d'ineffables délices, car ces riens venant de Calixte avaient une valeur immense. Puissance de l'amour chaste, il était plus heureux de guetter une ombre sur une vitre qu'il ne l'avait été la veille à une table exquise, au milieu des plus jolies femmes et des plus joyeux compagnons. C'est là, se disait-il, qu'elle vit, qu'elle prie et travaille. C'est là qu'elle s'endort sous l'aile de son ange gardien, qui se penche pour voir les rêves de cette âme charmante. Puis, au bout de quelques minutes de contemplation extatique, faisant un retour sur lui-même, il ne put s'empêcher de s'écrier « Oh, si Rodolphe me voyait, c'est pour le coup qu'il m'appellerait troubadour et m'offrirait une redingote à bricot à bande de velours. Il me manque vraiment que la guitare, encore, si j'étais à Civil ou à Grenade, sous un balcon mauresque. » Et il rit, mais du bout des lèvres, car il avait les paupières mouillées. Pendant que Dalberg se livrait dans la rue à cet exercice que les Espagnols appellent « pelar la pava », que faisait Calixte? Assise devant une petite table, elle écrivait, ou du moins paraissait écrire, car sa plume ne laissait aucune trace sur le papier. Un plateau, chargé d'un verre et d'une carafe contenant de la limonade, était posé près du pupitre de Calixte, qui piquait le bec de sa plume dans la pulpe d'une moitié de citron qui n'avait pas servi à la confection du breuvage. En ce moment, les sons d'un orgue se firent entendre dans le lointain, et M. Després entra, selon sa coutume, pour dire bonsoir à sa fille. L'orgue se rapprocha et s'arrêta sous la fenêtre, où il se mit à jouer tout son répertoire. « Mais que le diable emporte l'Auvergnat et sa musique, est-ce l'heure de jouer à tour de bras ?»« Je veux revoir ma Normandie !» s'écria M. Després impatienté. « Mais ce pauvre homme compte pour sa recette, sur l'ennui qu'il cause, » répondit Calixte en riant. « Ah, je vais lui jeter quelques monnaies, il s'en ira. » Calixte enveloppa deux ou trois pièces de billons avec le papier ramagé d'hiéroglyphes invisibles, et en trouvant la croisée, lança dans la rue le petit paquet qui vint rouler au pied du musicien ambulant. Celui-ci ramassa le tout et mit précieusement l'enveloppe dans sa poche après en avoir extrait l'argent. Puis, faisant passer sa boîte derrière son dos, il disparut d'un pas rapide. Quant à Dalberg, heureux d'avoir entrevu un instant la blanche figure de Calixte dans le flot de lumière qui s'échappait de la fenêtre ouverte, il se retira en portant du bonheur jusqu'au lendemain. Sans vouloir dénigrer une vertu aussi pure que celle de Calixte, ne pourrait-on pas croire que l'Auvergnat emportait une réponse au billet trouvé le matin à Saint-Germain-des-Prés ?